Dans la Bible, vous le savez, il y a quatre évangiles. L'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quatre hommes qui racontent l'évangile de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. Il y en a qui disent que le livre du prophète Ésaïe est le cinquième évangile. Pourquoi il dit ça? C'est parce que le livre d'Ésaïe parle beaucoup de Jésus, nous prépare pour Jésus, annonce la bonne nouvelle de celui qui allait venir. Mais il faut savoir que c'est pas dans le livre d'Ésaïe que la bonne nouvelle est annoncée pour la première fois. Nous venons de lire le verset 15 du chapitre 3 de Genèse. Et dans ce verset, nous avons ce que les théologiens appellent le proto-évangile. Proto veut dire simplement premier et évangile veut dire bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce verset, c'est la bonne nouvelle annoncée pour la première fois. Et notez que je ne dis pas c'est une bonne nouvelle annoncée pour la première fois, c'est la bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle. Il y a plein de bonnes nouvelles, mais c'est la bonne nouvelle qui s'adresse à le grand problème, le problème de notre péché. Mais quel est le contexte de l'annonce de cette bonne nouvelle? C'est une situation, vous le savez, bien triste. Adam et Ève viennent de désobéir à Dieu. Dieu avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre. Satan a dit le contraire. Dieu avait dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Satan a dit le contraire. Il a dit, allez-y, servez-vous, vous ne mourrez point. Et tout de suite après, Dieu lui-même arrive sur scène pour interroger Adam et Ève. Et ils sont obligés, un peu à contre-cœur, à confesser le péché, même s'ils ne veulent pas accepter toute la responsabilité. C'était Adam qui a dit c'était la femme, et la femme qui a dit non, c'était Satan, c'était le serpent. Et dans le verset 14, Dieu commence à donner son jugement. Il explique les conséquences et les séquelles de la désobéissance de l'humanité. La peine, la souffrance, la malédiction et la mort. Mais au milieu de son jugement, Dieu annonce cette bonne nouvelle sous la forme d'une promesse. Dieu parle ici à Satan, ou serpent, à Satan, et il donne une promesse qui changera le cours de l'histoire du monde, le cours de l'histoire de l'humanité. Il donne une promesse qui explique l'histoire de l'univers. Et cette promesse nous aide à comprendre la Bible. Cette promesse nous aide à comprendre le monde dans lequel nous vivons, le salut, tout. Sans cette promesse, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans le monde. Et dans les semaines à venir, nous verrons les promesses que Dieu a données à Abraham. Mais pour comprendre les promesses données à Abraham, il faut commencer avec cette promesse-ci. Il faut commencer avec cette première annonce de l'Évangile. Et dans ce verset, nous voyons plusieurs choses. La première chose que nous voyons, c'est une relation transformée. Une relation transformée. Suite à la désobéissance d'Adam et Ève contre Dieu, il y a de l'inimitié entre Adam et Ève et Dieu. Ils sont ennemis. Il y a de l'hostilité entre eux. Et il y a de l'amitié entre Adam et Ève et Satan. Ça, c'est important à comprendre. Au moment où Dieu arrive sur scène, Adam et Ève et Satan, ils sont amis. Ils ont suivi sa voix. Ils ont obéi à sa voix. Ils ont cru, ils ont fait confiance à lui. Ils sont devenus amis. Mais dans ce verset, Dieu dit à Satan qu'il va agir pour changer cette situation, pour changer cette relation d'amitié. Là où il y a de l'amitié entre Satan et Adam et Ève, Dieu mettra de l'inimitié, de l'hostilité, qui n'existe pas pour l'instant. Dieu va le mettre. Il agira de sorte que l'homme et la femme ne suivent plus la voie de Satan. Ils vont reconnaître que Satan, en fait, est leur ennemi. Il n'est pas leur ami. il deviendra leur ennemi. Au moment où Dieu parle, Satan est le maître d'Adam et Ève, mais Dieu dit qu'il changera ça. La Bible en français courant dit « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi ». Parce que là, il n'y en avait pas. Il y avait de l'amitié. Dieu dit à Satan « Tu penses que tu as gagné. Tu penses que tu as réussi à séduire l'humanité, mais tu as tort. Moi, Dieu, je vais agir. » Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur cette première partie de ce verset. Mais je veux surtout souligner le fait que cette transformation est une initiative de Dieu seul. Dieu ne dit pas à Satan, la femme va décider de changer. L'humanité aura envie un jour de revenir à moi. L'humanité choisira de ne plus suivre Satan. Non, il dit, moi, je mettrai l'inimitié entre toi. Je mettrai l'hostilité. Moi, je changerai cette relation. Je viendrai au secours. Et si Dieu n'avait pas pris cette initiative, Adam et Ève seraient restés amis de Satan. Il n'y aurait pas eu de salut. Cette promesse est donc une grâce qui vient de Dieu seul. Dieu intervient pour changer. Et ce thème de l'intervention de Dieu pour changer le cœur des hommes et des femmes, pour venir à leur secours, Dieu qui intervient, ça se trouve tout au long de la Bible. Dieu agit pour transformer, pour changer. Nous verrons bientôt comment Dieu intervient dans la vie d'un homme païen, Abraham. Ce n'était pas qu'Abraham était en train de chercher Dieu. Nous savons en fait qu'il était en train d'adorer des faux dieux. Mais Dieu est intervenu. Ce n'est pas Abraham qui cherchait Dieu. Dieu vient à Abraham pour lui transformer la vie. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu décrit ce qu'il va faire pour son peuple. Écoutez bien. « Je vous donnerai à tous un même cœur. Je vous animerai d'un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je. Dieu agit. » Nous voyons la même chose dans le Nouveau Testament. Le Dieu qui change le cœur, le Dieu qui intervient pour sauver. Il change radicalement le cœur de l'apôtre Paul. Paul n'était pas en train de chercher Dieu. Un cœur qui détestait Jésus et qui détestait tous ceux qui le suivaient. Paul qui haïssait Jésus a fini par dire « Pour moi, Christ est ma vie. » Comment expliquer ce changement? Paul lui-même l'explique dans les versets que nous avons considérés dimanche dernier. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants. Il nous a rendus vivants. » Nous étions morts. Dieu nous a rendus vivants. Dieu est intervenu. Dieu est venu à notre secours. Donc dans cette annonce de l'Évangile, nous voyons l'amour, la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu pour l'humanité. Il voit ses créatures dans la détresse, dans leur misère, dans leur péché, et il ne les laisse pas comme ça. Il vient à leur secours. Il agit là où l'humanité était incapable d'agir. N'est-ce pas le cas qu'on critique souvent le Dieu de l'Ancien Testament? On dit, ah ben le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de colère, un Dieu de jugement. Mais là, la première occasion que Dieu avait pour agir en justice et en colère et en jugement, il annonce sa grâce. Il annonce sa compassion, il annonce son amour. Dieu n'est pas obligé de changer le cœur de ses créatures. Mais il le fait, il choisit de le faire. Donc aujourd'hui, si vous êtes chrétien, pourquoi êtes-vous chrétien? C'est parce que Dieu est intervenu dans votre vie. Dieu a agi pour mettre l'inimitié entre vous et Satan. Vous êtes nés amis de Satan. Vous êtes nés morts dans votre péché, comme on a vu dimanche dernier. Mais Dieu a agi pour changer ça. Si vous êtes chrétien, Dieu a changé votre cœur pour que vous détestiez le péché. Pour que vous n'ayez plus envie d'écouter la voix de Satan, plus envie de suivre sa voix. Dieu vous a libéré de l'emprise de Satan. Dieu vous a sorti des ténèbres. Il vous a ouvert les yeux pour que vous voyiez Satan comme il est vraiment votre ennemi. Dieu a fait tout ça. Dieu a donné un cœur nouveau. Dieu a agi pour vous sauver. Et chaque jour, mes amis, nous devons nous rappeler de ça. Nous devons lui rendre grâce pour son œuvre de grâce et de miséricorde en nous. Ce n'était pas que vous avez cherché Dieu. Dieu ne vous a pas laissé dans votre péché. Il vous a transformé votre relation avec lui. Chaque jour, vous devez méditer ce que Dieu a fait pour vous. Tout ce que vous faites dans la vie, ça doit être une réponse à cette intervention de Dieu dans votre vie. Chaque jour, posez-vous les questions. Et si Dieu m'avait laissé là où j'étais? Et si Dieu n'avait pas agi dans ma vie? S'il n'avait pas mis de l'hostilité entre moi et Satan, je serais où? Prosternons-nous devant le Dieu qui est intervenu pour nous sauver. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, ce verset nous dit que qu'entre vous et Satan, en fait, il y a de l'amitié. Vous écoutez sa voix, vous écoutez ses conseils. Vous avez peut-être du mal à accepter ça. On a du mal à penser que des gens qui ne sont pas chrétiens, qu'en fait, qu'ils écoutent et qu'ils aiment Satan, bon, ils n'offrent pas un culte chez eux, c'est pas comme ça qu'ils l'aiment, mais Satan est leur ami. Il l'écoute. Il se déguise, il ment, mais on l'écoute. Si ce n'est pas Dieu qui vous dérige, c'est Satan. Satan vous séduit, il trompe, et on ne le sait même pas. Il est tellement malin. Mais ce verset nous dit que Dieu peut changer tout ça. Dieu peut changer le cœur le plus endurci, le cœur le plus éloigné de lui. Et nous qui sommes chrétiens, nous en sommes la preuve de ce que Dieu peut faire. Dieu peut transformer, il peut vous transformer. Peut-être que Dieu a déjà commencé à vous parler, à vous montrer votre condition devant lui, vous reconnaissez votre péché, vous savez que vous êtes coupable devant Dieu. C'est Dieu qui vous aide à voir ça, c'est Dieu qui intervient pour vous aider à voir ça. Satan essaie de vous dire non, n'écoutez pas Dieu, n'écoutez pas ça. Mais Dieu peut changer le cœur. Dieu peut vous changer. Donc nous voyons une relation transformée. Mais nous voyons aussi l'humanité en conflit. L'humanité en conflit. Dieu parle d'abord de l'inimitié entre Satan et la femme. Mais il parle ensuite de l'inimitié qui existera entre la descendance de Satan et la descendance de la femme. Donc ce n'est pas simplement Satan et Ève. Mais c'est la descendance de Satan et la descendance d'Ève. Et cette histoire veut dire que dans cette phrase veut dire que dans l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, il n'y aura que deux groupes. Je ne parle pas des deux sexes, masculin et féminin, mais ces deux groupes sont définis comment? Par leur relation avec Satan ou avec Dieu. Ceux qui sont amis de Satan et hostiles à Dieu, et ceux qui sont amis de Dieu, la descendance de la femme, et qui sont hostiles à Satan. Et Dieu dit qu'il y aura toujours de l'hostilité, de l'inimitié entre ces deux groupes, la descendance de Satan et la descendance de la femme. C'est une annonce, si vous voulez, de guerre spirituelle dans ce monde. Et quand on lit la Bible, on regarde l'histoire de notre monde, cette hostilité entre Satan et le peuple de Dieu est évidente. Regardez le verset, lisez le chapitre 4 de Genèse, et nous voyons déjà cette hostilité entre Caïn et Abel, descendant de Satan, descendant de la femme, de Dieu, Abel, l'homme juste, et c'est Caïn qui veut tuer. Voilà cette hostilité. Ça vient de Satan, ça vient de son cœur. Et puis, nous lisons dans 1 Jean 3, verset 12, sur Caïn et Abel, nous ne devons pas ressembler à Caïn qui était du malin, qui était de Satan, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous voyez le conflit déjà dans la première famille. Les premiers enfants nés dans l'histoire de l'humanité, il y avait ce conflit. Déjà, la promesse accomplie tout de suite dans la première famille. Et tout au long de la Bible, nous voyons l'hostilité entre la descendance de Satan et le peuple de Dieu, la descendance de la femme. Esclaves en Égypte, les enfants hébreux massacrés. Esclaves à Babylone, Hérode qui fait tuer les garçons de moins de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il est hostile à Dieu. Persécution de l'Église du Nouveau Testament. Les chrétiens persécutés et tués. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'inimitié entre la descendance de Satan et de Dieu. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » C'est comme Dieu avait dit, « Je mettrai de la haine entre votre descendance et la mienne, la descendance de la femme. » Et cela continue de nos jours. J'ai essayé d'avoir les statistiques sur la persécution mondiale des chrétiens, et j'ai lu qu'il y a en moyenne plus de 4000 chrétiens tués chaque année dans le monde, dans les 50 pays les plus persécutés. 11 par jour. 11 chrétiens par jour tués pour leur foi. D'autres sont jetés en prison, agressés, torturés, chassés de leur maison, de leur pays. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur les Huguenots, qui a passé sur la 5, je pense, récemment, sur la fuite des Huguenots. C'était intéressant de voir l'hostilité envers le peuple de Dieu. Il suffit de lire le magazine de Portes Ouvertes pour voir l'importance de la persécution. Et même dans notre propre assemblée, n'est-ce pas ? L'hostilité entre la descendance de la femme et la descendance de Satan. Moquerie, discrimination, hostilité. Vous l'avez connu. L'hostilité contre le peuple de Dieu, c'est une réalité depuis la chute. Et cela continuera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dieu explique au début de la Bible qu'il n'existe que 2 groupes dans ce monde. L'un qui est fondamentalement opposé à l'autre, fondamentalement, dans son cœur, comme la lumière et l'obscurité. Et ça nous aide à comprendre le monde, n'est-ce pas ? À comprendre ce qui se passe dans notre vie, comprendre l'hostilité que nous expérimentons, à comprendre les atroces commises contre des chrétiens. Il y a de la haine dans le cœur de la descendance de Satan. Même dans nos familles. Oui, nous nous aimons dans nos familles, mais quand il y a des chrétiens et des non-chrétiens, le but fondamental de la vie est différent. Notre façon de voir le monde est complètement différente. Jésus-Christ est au centre de notre vie, de tout ce que nous faisons. Ce n'est pas le cas pour nos proches. Donc, il y a de l'inimitié. Donc, que ce verset nous encourage à persévérer face à l'hostilité. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Jésus a dû y faire face. Tout le peuple de Dieu, depuis Genèse 3:15, a dû faire face. Et nous devrons faire face jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est l'humanité en conflit. Une relation transformée, l'humanité en conflit, et troisièmement, un sauveur promis. Et voilà si vous voulez, la partie la plus importante de cette promesse. Dieu ne dit pas simplement qu'il y aura de l'hostilité, il continue en disant qu'un jour, la descendance de la femme écrasera la tête de Satan. Il y aura, dit Dieu, une victoire, il y aura un coup décisif qui frappera et qui détruira Satan. Et en examinant la grammaire du verset, nous voyons que Dieu parle maintenant d'une seule personne. Un seul descendant qui luttera contre Satan et qui sera victorieux. Un individu particulier écrasera la tête du serpent lui-même. Là, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Quelqu'un va venir pour écraser Satan. L'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu, va mourir. Mais cette promesse nous dit aussi que le descendant de la femme va souffrir en écrasant la tête de Satan. Satan sera écrasé, mais ça coûtera également la vie de celui qui l'écrase. Il faudra que son pied vienne en contact avec la tête du serpent. Il descendra son pied pour écraser la tête, mais le serpent le verra et il ouvrira grand sa bouche et il enfoncera ses crochets venimeux dans le talon de l'homme, la partie peut-être la plus sensible, tendre du corps humain, du pied en tout cas. Le serpent saura qu'il va mourir et il voudra infliger le maximum de douleur à l'homme qui descend son pied. Il voudra que l'homme, le descendant de la femme, qui l'écrase, il veut que lui meure aussi. Et le descendant de la femme saura que pour bien tuer le serpent, il faudra aussi que lui aussi souffre. Le descendant de la femme sera mordu, mais Satan sera vaincu et écrasé. Et le descendant de la femme va mourir en écrasant la tête du serpent. Donc voilà la première promesse. Nous ne savons pas ce que Adam et Ève ont compris en entendant ça. Dieu parle à Satan, n'oubliez pas. Satan a compris. Mais qu'est-ce que Adam et Ève ont compris? Nous ne savons pas. Mais c'est une promesse de quelqu'un qui sauverait des hommes et des femmes du péché de Satan. Voilà la première annonce de l'Évangile, la première promesse de la venue d'un sauveur. Adam et Ève ont compris qu'un jour, quelqu'un viendra. Ils n'ont pas tout compris sur cette personne, tout comme les enfants n'ont pas tout compris sur le cadeau, mais ils ont compris qu'il y aura un cadeau, sans comprendre tous les détails. Même chose pour Adam et Ève. Mais tout au long de l'Ancien Testament, Dieu donne encore des promesses et des indices concernant l'identité du tueur du serpent. Nous verrons dans les semaines qui viennent que Dieu fait une promesse à Abraham. Une promesse qu'en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Comment ça? Nous avons lu dans cette liste de noms qu'il y avait Abraham, qui était l'arrière-grand-père de Jésus. En lui, toutes les nations de la terre étaient bénies. Dieu donne aussi d'autres promesses concernant l'identité du descendant de la femme. Ésaïe 7, 14, il sera né d'une vierge, le descendant de la femme. Il sera Dieu lui-même. Michée 5, 2, il sera né à Bethléem. Ésaïe 53, il sera méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Celui qui allait tuer le serpent allait souffrir en le faisant. Et tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, à la naissance de chaque garçon, les parents se demandaient, est-ce celui-ci qui sauvera son peuple? Est-ce celui-ci qui écrasera la tête de Satan. Leur foi a été placée dans un sauveur qui allait venir. Et nous, nous savons que sur la croix, c'est Jésus qui a écrasé la tête de Satan. Sur la croix, le pied de Jésus est descendu sur la tête de Satan. Il a donné l'estocade à Satan, mais Satan a enfoncé ses crochets dans le talon de Jésus pour injecter son poison mortel dans le sauveur. La croix de Jésus est l'accomplissement de cette promesse dans Genèse 3. Dieu lui-même est devenu homme pour écraser la tête de Satan. Nous lisons dans Hébreux 2, 14, il a participé, Jésus a participé à leur nature humaine, c'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Je pourrais passer des heures à parler de l'accomplissement de ce verset, de comment Jésus a lutté contre Satan, même avant d'aller sur la croix. C'est un des versets les plus importants de la Bible, mais en 30 minutes, il est impossible de dire tout là-dessus. Mais notre but, en ouvrant la Bible, en la lisant, en la prêchant, c'est de mieux voir et mieux comprendre notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce verset nous aide à le faire. Ce n'est pas pour avoir des connaissances intellectuelles, mais pour pouvoir mieux adorer, mieux aimer, mieux louer et mieux servir le Seigneur. De celui qui est venu écraser la tête de Satan. Dans ce verset, je l'ai déjà dit, nous voyons la grâce de Dieu. Avant de châtier, avant de réprimander l'humanité, il annonce qu'il va pourvoir un sauveur. Dieu n'est pas obligé de le faire, mais dans son amour, Dieu agit. C'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Il vient au secours de ceux qui sont hostiles à lui. De ceux qui le détestent. Et ça, c'était le plan de Dieu même avant la création du monde. De racheter un peuple pour sa gloire. Et l'histoire de ce monde est simplement l'accomplissement de ce verset. Dieu intervient pour sauver, pour libérer de l'emprise de Satan, pour écraser la tête de Satan. Et Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu le faire. C'est la première annonce de la bonne nouvelle. Elle a été annoncée dans le jardin. On verra l'annonce de la bonne nouvelle à Abraham. Et nous, on continue à annoncer cette même bonne nouvelle. Nous comprenons mieux la bonne nouvelle qu'Adam et Ève. Nous comprenons mieux la bonne nouvelle qu'Abraham. Et nous continuons à l'annoncer. Nous l'annonçons semaine après semaine ici, nous l'annonçons chez nous, nous l'annonçons au travail, nous l'annonçons là où Dieu nous envoie. Nous annonçons cette bonne nouvelle. Nous annonçons l'amour de celui qui a subi une souffrance terrible pour vaincre le mal et pour vaincre Satan. Je vous pose simplement la question ce matin. C'est la bonne nouvelle du salut en Christ, salut du mal, de l'emprise de Satan. Avez-vous reçu ce salut que Dieu vous offre grâce à la victoire de Jésus? Dieu a-t-il mis de l'hostilité entre vous et Satan? A-t-il mis de l'amitié entre vous et Dieu? Avez-vous été transformé par la grâce de Dieu? Il est possible de venir ici un dimanche matin, ami de Satan et ennemi de Dieu, et de partir ami de Dieu et ennemi de Satan. Il est possible. Avec un cœur transformé. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Vous n'êtes plus sous l'emprise de Satan. Dieu vous a libéré. Mais n'oublions jamais que cette libération a coûté très cher. Le Fils de Dieu a dû descendre son pied sur la tête de Satan. Imaginez ça. C'est une image puissante. Imaginez, Il y a un serpent dans cette pièce, le serpent le plus dangereux du monde. Qui va enlever sa chaussure, sa chaussette pour marcher sur la tête, pour sauver les autres? Cette semaine à Londres, nous avons vu un attentat terroriste sur le pont London Bridge. Et 6 personnes qui ont sauté sur celui qui a attaqué, qui ont risqué leur vie, qui ont marché dans un sens sur le serpent. Jésus l'a fait pour vous, sachant que ça allait le tuer, sachant que Satan allait enfoncer ses crochets dans son talon. Il a terriblement, terriblement souffert. Mais il a continué jusqu'au bout. Vous n'avez jamais vu Esther essayer d'attraper des araignées. Ça vaut la peine de passer. Quand l'araignée, on fait avec l'aspirateur. Mais des fois, l'araignée ne rentre pas dans l'aspirateur. Et elle s'enfuit le plus vite possible. Désolé. On s'approche de la bête en tremblant. Et si la bête me touche, Jésus a descendu son pied, sachant que la bête allait le toucher, allait enfoncer ses crochets dans son pied. Mais il n'a pas hésité. Il ne s'est pas enfoui en pensant « Oh non, je ne peux pas ». Il est allé jusqu'au bout. Il a fait ça pour vous, malgré la souffrance. Et malgré le fait que sur la croix, on a dit « Descends, descends, c'est pas trop tard. » Non, je vais continuer jusqu'au bout. Pour réduire en pulpe la tête de son ennemi et de votre ennemi. Que son nom soit glorifié éternellement. Amen. Amen.